Nicolas Bergère, troisième fichier. Nicolas avait été pris d'un beau zèle pour faire remettre en liberté son patron dès qu'il avait cru le cœur de Mademoiselle Van Stoel complètement libre et que l'amour de la jeune fille récompenserait le libérateur. Mais quand il sut que cette demoiselle était fiancée à l'adjudant Rastin de la caserne du château d'eau, son noble élan fut-il ralenti par cette révélation? Ce serait mal connaître le jeune Bergère. Il n'hésita point à poursuivre sa tâche par un dévouement désintéressé et d'autant plus chevaleresque. Peut-être gardait-il, au fond de lui-même, un petit espoir tenace, l'idée de supplanter son rival tout doucement, sans en avoir l'air, en exhibant simplement son âme plus haute et plus exceptionnelle. Il n'était pas loin de 4 heures. Le vicomte de Costeran n'était sans doute plus chez lui, mais Nicolas le trouverait au Fighting Club. Pendant les semaines qui venaient de s'écouler, Nicolas, une ou deux fois, avait pensé à rendre visite au vicomte. Il avait eu peur d'être indiscret. Maintenant qu'il s'agissait de sauver son prochain, on pouvait passer sur ses petits scrupules mondains. Au Fighting Club, le professeur de boxe française avait disparu. Mais, au bout de quelques instants, on s'imaginait l'avoir retrouvé dans la personne d'un autre professeur de boxe française, un peu plus grand, un peu plus mince, qui nettoyait les bottines blanches avec la même application et tirait la même vanité de l'installation hydrothérapique. La salle était toujours aussi froide et aussi humide, en dépit de la présence d'un poêle chauffé à blanc qui se contentait d'exhaler, dans un rayon de 50 mètres, une chaleur insoutenable. Nicolas Bergère attendit 2 longues heures. Mais cette attente faisait partie de la liste des épreuves qu'il devait subir en l'honneur de Mademoiselle Van Stoel. Il était seul avec le professeur. L'ardeur combative des membres du Fighting Club semblait décidément bien calme. N'est-ce pas déjà beaucoup pour les instincts belliqueux d'un homme civilisé que de payer une cotisation de 120 francs et d'avoir en permanence, dans une petite case, des gants de boxe, des bottines spéciales et une culotte noire? La chance favorisait la famille Van Stoel. Le jeune vicomte de Costeran, qui n'était pas venu à la salle depuis 15 ans, y passa précisément ce jour-là. Il se mit en tenue de boxe et s'assit près du poêle, où Nicolas lui raconta les malheurs de Monsieur Van Stoel. « Ça tombe bien, » dit-il à Nicolas. « J'ai justement un oncle qui est conseiller à la cour. Nous allons le voir de ce pas. Le temps de me rhabiller. Tant pis, je ne travaillerai pas aujourd'hui. » L'auto les amena, un quart d'heure après, devant une très belle maison de la rue de l'Université. C'était là qu'habitait au premier étage Monsieur Galsuin de Froidménil. Mais ce magistrat n'était pas encore rentré. Nicolas fut introduit dans un très grand salon tout orné de portraits qu'éclairaient sévèrement 2 globes de lampes au gaz. Le vicomte l'avait abandonné lâchement après avoir écrit un petit mot à l'adresse de son oncle. Pour compenser sa désertion, il recommandait Nicolas en termes très chaleureux. Nicolas Bergère attendit encore un bon moment. Mais il n'était pas pressé de comparaître devant M. Galsuin de Froidménil. Il se sentait intimidé par plusieurs siècles de noblesse de robe. Il n'était plus maintenant le défenseur d'un malheureux, mais le loup chafilié d'une bande de malfaiteurs. Il pensa qu'il n'était pas loin de 7h30 et que le magistrat, pressé d'aller dîner, expédierait rapidement l'audience. Après quelques instants d'une durée inappréciable, comme son esprit détendu l'avait laissé s'échapper dans un songe d'avenir, où un adjudant à moustache noire, le visage digne et attristé, se retirait à reculons de la salle à manger de Mademoiselle Van Stoel, une porte s'ouvrit brusquement et un grand monsieur maigre fit silencieusement signe à Nicolas de venir dans la chambre à côté. La chambre à côté, c'était le cabinet de Monsieur Galsuin de Froidménil. Et le grand monsieur maigre, c'était le conseiller à la cour lui-même. Son aspect ne répondait pas à l'idée, d'ailleurs vague, que s'en faisait d'avance Nicolas Bergère. Avec sa moustache grise et ses yeux un peu rêveurs, il avait moins l'air d'un magistrat que d'un colonel triste. Il s'assit derrière son bureau, fit asseoir d'un geste le jeune homme, et d'un autre geste là, l'invita à parler. Puis il s'accouda à son bureau, son front dans sa longue main fine. Nicolas se lança dans un récit aussi encombré que le magasin de ferraille de M. Van Stoel. Il dit peut-être tout ce qu'il fallait dire, mais au mépris de tout ordre chronologique, sans s'occuper de mettre en valeur les points importants. Puis, quand il pensa avoir tout jeté à terre, il s'arrêta. M. Galsuin de Froidménil gardait le silence. Il n'était donc pas pressé d'aller dîner? Dès que le magistrat prit la parole, Nicolas s'aperçut qu'habitué à trier les détails intéressants dans les récits les plus confus, il avait très bien saisi l'affaire. M. Galsuin de Froidménil s'était assis très en arrière sur un fauteuil et regardait Nicolas sans sévérité. « Je ne crois pas, » dit-il avec une belle voix assez profonde, « qu'il soit possible d'arrêter les choses à l'heure qu'il est. Même si la plainte est retirée, il faut que l'action publique suive son cours. » Nicolas, à ces mots, ressentit une espèce de soulagement paresseux, et il n'y avait rien à faire. Mais il fut navré ensuite à l'idée de rapporter cette réponse à Mademoiselle Van Stoel. Peut-être avait-il eu tort de mêler à cette affaire un magistrat inflexible. Celui-ci se refuserait à intervenir du moment qu'il s'agissait d'entraver l'action publique, dont il était lui-même un des plus austères représentants. « Écoutez, » ajouta-t-il inopinément avec une grosse voix très douce, « je vais essayer de m'en occuper. Ce Van Stoel est un vieux bonhomme ?» « Oui, » dit Nicolas, « il a plus de 60 ans. »« Oui, » dit M. Galsuin de Froidménil. « Oui. En principe, » ajouta-t-il en se levant, « il nous est assez difficile d'intervenir auprès des magistrats du parquet. Mais il se trouve que je connais quelqu'un, avec qui j'ai des relations de famille. Je vais voir, mon ami, je vais voir. » Ne donnez pas trop d'espoir à la famille de ce Van Stoel. Ne les désespérez pas non plus. » Nicolas Bergère aurait voulu embrasser M. Galsuin de Froidménil et devenir, séance tenante, son fils adoptif. Il se contenta de le remercier une quinzaine de fois sur tout le parcours du bureau à la porte d'entrée, et encore par l'entrebâillement de cette porte, qui, poussé par M. Galsuin de Froidménil, se refermait doucement. L'adjudant. 3 jours après sa visite au conseiller, Nicolas Bergère dînait chez M. Van Stoel, enfin rendu à la liberté. Il y avait là un vieil aide-pharmacien, ami de la maison, l'adjudant Rastin, et la sœur et la fille du martyr. Le dîner était assez grave. On était encore sous l'impression de cette grande iniquité. La justice avait poursuivi un vieillard, pour un acte sans doute contraire aux lois, mais qu'il accomplissait paisiblement depuis 35 ans. Ce qui étonnait tout de même Nicolas, c'est que M. Van Stoel ne semblait pas regarder sa mise en liberté comme une faveur, mais comme une réparation. Les commissaires, les magistrats, formaient une bande sinistre, ligué contre le magasin de ferraille pour on ne savait quelles obscures raisons. Mais dorénavant, M. Van Stoel n'aurait plus affaire à eux. Toutes les marchandises qui ne seraient pas d'une provenance absolument régulière, il les repousserait impitoyablement. Il semblait considérer que c'était un bon tour à jouer au parquet, qui en serait très vexé. Le vieil aide en pharmacie ne disait rien et mangeait. Il avait une barbe de Socrate, et son front dénudé et bossué paraissait bourré de connaissances qui n'en sortaient jamais, mais restait là en cas de besoin, comme un trésor de guerre. Nicolas Bergère avait examiné l'adjudant Rastin avec la sympathie qu'il accordait toujours de prime abord à ses rivaux. Il n'était pas ébloui par l'uniforme, car il ne faut pas oublier que 3 mois auparavant, il était encore planton d'un colonel. Mais au bout d'un instant, il sentit que l'adjudant Rastin et lui ne fraterniseraient jamais. L'adjudant était un petit homme rougeaud et trapu, trop serré dans son faux col, et qui paraissait avoir une affection spéciale pour la locution « sûr et certain ». Nicolas fut choqué à l'idée que ce Rastin pourrait devenir l'époux de cette délicate Clara Van Stoel, qui était évidemment d'une autre race. Monsieur Van Stoel révéla des talents que Nicolas ne lui supposait pas quand il s'agit de découper le poulet et de préparer la salade. Le poulet était très dur à mâcher et saignait un peu, ce qui est moins bien porté chez les poulets que chez les rosbifs. Mais tous les convives le trouvèrent si excellent que Nicolas joignit ses louanges aux leurs. Le service était très retardé par les lenteurs de l'aide-pharmacien, qui mit certainement 20 minutes à venir à bout d'une tranche moyenne de pâté, veau et jambon. On alla prendre le café dans un salon orné de quantités de photographies. Nicolas était très content de changer de place. Le repas lui avait paru interminable. La conversation avait été difficile. Monsieur Van Stoel, le seul personnage un peu loquace de l'assistance, étant un peu aplati par son martyre récent. Mademoiselle Van Stoel se mit au piano et chanta. Avait-elle une belle voix et du talent, ou bien chantait-elle très mal? C'était une question que s'était posée Nicolas, chaque fois qu'il s'était trouvé en présence d'une chanteuse. Au bout d'un instant, il fut très exalté par la musique et se disposa à aimer éperdument Mademoiselle Van Stoel. Mais ce n'était pas à lui à contrarier les projets de cette jeune fille. Du moment qu'elle était fiancée à l'adjudant Rastin, Nicolas n'avait plus qu'à s'effacer et à rester un amoureux transi et paisible. La musique opérait des effets divers sur les autres convives. Le vieil aide-pharmacien, les paupières rabattues sur ses pensées mystérieuses, semblait avoir rompu toute attache avec le monde extérieur. Le martyr avait pris dans une petite armoire du salon, toute dorée, un livre de contes et s'absorbait dans une vérification d'écriture. Quant à l'adjudant, de plus en plus serré dans son faux col et les yeux grands ouverts, il n'arrêtait pas d'étouffer les bouffées de bâillements qui montaient à ses lèvres. Quand Mademoiselle Van Stoel eut fini de chanter, Nicolas s'approcha d'elle et murmura des mots indistincts, qui disaient tout de même quelque chose de flatteur. L'adjudant Rastin s'inclina et sourit en silence. L'aide-pharmacien entr'ouvrit faiblement les yeux, avec un air de tristesse ineffable. Quand on prit congé, l'adjudant s'approcha de Clara et lui posa un baiser sur chaque joue. Nicolas vit donc qu'il était agréé officiellement. Il n'en eut pour l'instant aucun déplaisir précis. C'était comme ça, c'était comme ça. On quitta sur le trottoir l'aide-pharmacien qui salua de la tête et s'éloigna, plus lourd de méditation que jamais. L'adjudant et Nicolas descendirent ensemble jusqu'à la caserne du château d'eau. Dans le bas du boulevard Voltaire, l'adjudant proposa à Nicolas d'aller boire un verre au café. Ils entrèrent donc dans un café où Rastin paraissait être très connu. « Irma n'est pas là ? » demanda-t-il à un garçon. « Dans la salle, au fond, monsieur Rastin. » Une grande femme, blonde et osseuse, était seule à une table. L'adjudant s'assit à côté d'elle et lui passa le bras derrière la taille. Nicolas ne savait que penser. Était-ce une tenue ? Était-ce une conduite convenable pour un fiancé ? « Pas besoin de vous recommander de ne rien dire là-bas, » dit Rastin à Nicolas. « Sois tranquille, » dit la grande femme osseuse. « Monsieur n'aura pas besoin de rien dire. C'est moi qui vais un peu leur écrire un de ces jours. » « Voyons, voyons, » pensait Nicolas, « examinons les choses. » Il détestait ce Rastin. Tous deux étaient des gens du peuple, mais Nicolas se sentait, lui, rustaud, une nature plus fine. Comme chevalier de Mademoiselle Van Stoul, il fut blessé de l'avoir ainsi trahi, et peiné d'avance de la peine qu'elle en pourrait avoir. Mais que devenaient ses chances à lui dans tout cela? L'autre Nicolas. Nicolas se trouvait lancé dans une petite aventure sentimentale. Mais il ne suivait le mouvement qu'avec beaucoup de timidité. Il était indigné de voir que l'adjudant Rastin se conduisait aussi mal. Mais que faire? Il ne pouvait révéler à Mademoiselle Van Stoul les frasques de son fiancé et lui dire quel choix indigne d'elle elle avait fait, en promettant son cœur et sa main à ce peu scrupuleux militaire. Le sensible Nicolas s'effrayait en pensant au déchirement qu'une telle révélation ne pouvait manquer de produire dans l'âme de cette jeune fille. Et puis, quelle qualité avait-il pour parler à Mademoiselle Van Stoul? En remplacement du cœur volage de l'adjudant Rastin, était-il prêt à offrir, séance tenante, un autre cœur en échange? Elle était la fille d'un petit commerçant qui représentait tout de même quelque chose. Et qu'était-il, lui, le pauvre Nicolas? Un employé à 130 francs par mois, à qui on devait même une demi-semaine. Une complication nouvelle s'ajoutait, en effet, aux autres. Il n'avait littéralement plus un sou. L'incarcération de M. Van Stoul s'était produite le jour de la paix, et le marchand de ferraille avait été si bouleversé qu'il ne pensait plus à régler son commis. Nicolas n'avait pas à payer, avant 3 ou 4 jours, sa chambre et ses repas. Il se disait que d'ici là, M. Van Stoul penserait peut-être à lui. Mais il n'irait demander quoi que ce fût à ce vieillard qu'il avait fait sortir de prison. Il lui semblait que la moindre requête, même pour de l'argent qu'on lui devait, diminuerait l'importance et la beauté du service rendu. Retourner chez le vicomte de Costéran? Aller trouver M. Aubréant, l'agent d'affaires, qu'il n'avait pas revu depuis son arrivée à Paris? Nicolas eût préféré se résoudre à n'importe quelle extrémité. D'ailleurs, il se disait qu'il n'était pas tout à fait acculé. Mais à peine se l'était-il dit qu'il tremblait en pensant à ce qui adviendrait quelques jours plus tard. C'est sur ces entrefaites qu'il reçut une lettre de sa sœur restée en Bretagne. D'ordinaire, il n'attendait nulle surprise de ces longues et minces enveloppes grises, couvertes d'une grossière écriture, mais assez élégantes de forme. Elles provenaient d'un lot considérable de papiers achetés un jour de foire à un colporteur insinuant. La sœur de Nicolas donnait des nouvelles de la famille. La santé était bonne, et l'on espérait que la présente le trouverait de même. Mais ce jour-là, il y avait 3 pages écrites au lieu de 2. On lui apprenait une petite nouvelle qui n'avait pas d'importance au premier abord et qui signifiait tout de même quelque chose pour Nicolas, isolé dans la grande ville comme dans une île déserte. Son cousin germain, Nicolas Bergère, professeur titulaire de 5e au lycée d'Amiens, venait d'être nommé comme suppléant au lycée Louis-le-Grand. Le cousin était installé à Paris depuis 8 jours et attendait la visite de Nicolas. Les deux Nicolas Bergère ne s'étaient pas revus depuis près de 10 ans. Le professeur était plus âgé, il devait avoir dépassé la trentaine. La dernière fois qu'il était venu au pays, Nicolas, alors âgé de 13 ou 14 ans, avait subi le prestige de ce jeune étudiant taciturne, au visage encombré de barbe maigre. Et c'est le désir de l'imiter, de se rapprocher de lui, qui lui avait donné le goût de la lecture. À 8 heures du soir, aussitôt sa journée finie et son dîner pris en toute hâte, Nicolas se rendit à pied jusqu'à la rue des Écoles, où habitait le professeur. Maintenant, il connaissait très bien les rues de Paris. Il s'y était mis assez vite. Il avait beaucoup de mémoire et un sens de l'orientation assez développé. Un jour, à l'hôtel, dans une joute courtoise avec un placier en graisse d'automobile qui prétendait connaître admirablement le métro, Nicolas avait cité, dans un ordre parfait, toutes les stations de toutes les lignes. Il avait fait cela simplement, sans se douter qu'il y eût quelque mérite. Mais devant l'étonnement qu'il avait suscité, il avait senti croître en lui un légitime orgueil. La maison de la rue des Écoles, où habitait l'autre Nicolas Bergère, était une de ces grandes bâtisses qui se distinguent par une vieillesse précoce. Elle était bâtie depuis 15 ans à peine, mais le bois de l'escalier avait joué. La rampe était soulevée par endroits. Les portes à chaque étage laissaient passer sous elles des quantités de petits courants d'air. Le professeur habitait au 6e. Nicolas se trouva en présence de 4 ou 5 portes qui pouvaient être toutes, avec la même plausibilité, la porte de son cousin. Il y avait bien des cartes de visite indicatrices, mais le palier était mal éclairé par le bec de gaz de l'étage au-dessous. Enfin, d'après la dimension relative du nom et du prénom, Nicolas choisit résolument une des cartes. Il frappa à la porte où cette carte était clouée. L'autre Nicolas, allait-il le reconnaître après 10 ans de séparation? Nicolas, qui avait marché très vite pour venir jusqu'à la rue des Écoles, était maintenant gêné à l'idée de revoir son cousin. La porte s'ouvrit enfin. Nicolas vit devant lui un monsieur très barbu qu'il ne reconnut pas. Il s'était donc trompé de porte. Entre donc! Il le précéda dans un petit couloir encombré de volumes, et Nicolas sentit instantanément se réveiller en lui son goût de la lecture. Il était maintenant dans une petite chambre remplie tout entière par un lit et une table de travail, que recouvrait un magnifique et plantureux désordre de brochures et de papiers amoncelés. Nicolas regardait son cousin. Le professeur était vêtu d'une robe de chambre marron. Il était voûté et paraissait beaucoup plus vieux que son âge. Mais il parlait avec une voix jeune, pleine d'allégresse. Il n'y avait pas de feu dans la cheminée. Cependant, Nicolas eut l'impression d'avoir été recueilli dans un logis très chaud après avoir erré longtemps sur la grande route, comme un pauvre jouet de la bise et des hasards. On s'explique. 1 heure plus tard, Nicolas était attablé avec son cousin dans un café de la rue des Écoles. Ils avaient commandé chacun un café noir, et Nicolas, l'employé, racontait sa vie à Nicolas, le professeur. Celui-ci avait des yeux amusés et amicaux, qui provoquaient et entretenaient le débit des confidences. Et l'on ne pouvait s'empêcher d'être sincère avec lui. De sorte qu'en racontant les divers événements qui avaient accidenté sa vie depuis son arrivée à Paris, Nicolas les revivait l'un après l'autre, plus complètement, plus profondément qu'à l'heure où ils étaient survenus. C'est ainsi qu'il raconta son entrée et son séjour éphémère dans le grand monde, son bonheur au jeu et ses déboires, jusqu'à son séjour dans la boutique de M. Van Stoel. Mais il ne parla que sommairement de Mlle Van Stoel. Il était un peu gêné d'exprimer tout haut les sentiments encore imprécis qu'il avait pour cette demoiselle et qu'il n'avait pas osé s'avouer à lui-même. Il allait donc passer sous silence l'histoire de l'adjudant Rastin quand il lui sembla que c'était pour lui une nécessité, impérieuse comme un devoir, de tout dire, de ne rien cacher à son nouveau tuteur moral. Un homme du monde, à qui Nicolas eût demandé conseil en pareille circonstance, lui aurait sans doute conseillé de rester tranquille et de ne pas se mêler des affaires sentimentales de Mlle Van Stoel et de l'adjudant Rastin. Mais le professeur était une espèce de sauvage, qui vivait dans sa petite chambre et dans sa classe, avec de courts passages au café, où il allait simplement le temps de boire son café. Il vit qu'il s'agissait d'une malheureuse jeune fille qui allait se marier imprudemment à un militaire un peu léger. Peut-être, après tout, ces frasques de l'adjudant n'avaient-elles pas l'importance que le sensible Nicolas leur avait attribuée? D'autre part, Rastin avait demandé le secret au jeune homme. ce qui mettait celui-ci dans une situation un peu gênante et accentuait le vilain côté de la délation qu'un rapport à Mademoiselle Von Stuhl pouvait présenter. En fin de compte, le professeur conseilla à Nicolas d'aller interroger d'abord l'adjudant. Nicolas, à ce moment, se repentit peut-être d'avoir parlé de cette affaire. S'intéresserait-il tant qu'il l'avait cru à Mademoiselle Von Stuhl? Il finissait par en douter. Il aurait aussi bien pu quitter sa place, oublier à jamais la famille Van Stuhl et venir habiter auprès de son cousin. Mais maintenant, il était trop tard pour reculer. Il lui sembla que le professeur ne lui pardonnerait pas de faillir ainsi à la tâche morale qu'il avait assumée. Heureux les apôtres convaincus. C'est ce que disait Nicolas le lendemain matin, vers midi, en demandant l'adjudant Rastin à la caserne du château d'eau. Il serait certainement mal reçu en faisant cette démarche pénible dont Mademoiselle Van Stuhl ne lui serait aucun gré. « L'adjudant Rastin, vous ne l'avez pas vu sortir ?»« Non, sergent, » dit le caporal de garde. « Eh bien, faites conduire ce civil jusqu'à sa chambre. Tiens, Mordet, toi qui es occupé à rien faire. » Le silencieux Mordet se leva et se mit en marche, sans même s'assurer que le civil était dans son sillage. L'adjudant, dans la tenue paisible du militaire qui digère, était étendu sur son lit. Il avait retiré ses bottines et ouvert largement sa tunique. Il accueillit Nicolas d'une façon joviale et cordiale qui gêna un peu le visiteur. Puis il alla prendre dans une armoire une bouteille et deux verres. Par quelle transition Nicolas arriverait-il à remplir la mission de haute morale qu'il s'était proposée? Il crut bon de ne pas accepter de boire avec l'adjudant Rastin. « Voilà ce qui m'amène, » dit-il dignement. « Je suis, comme vous savez, un ami de la famille Van Stuhl, bien que je ne les connaisse pas depuis longtemps. Je sais que vous êtes fiancé à Mademoiselle Van Stuhl. Or, l'autre soir, il s'est passé un fait. Vous m'avez présenté à une dame de vos connaissances. Et puis, vous m'avez dit de n'en rien dire à la famille Van Stuhl. Alors, je me suis demandé si vous aviez bien réfléchi avant de vous engager à cette jeune fille. » Rastin, très étonné, regardait Nicolas sans prononcer une parole. Nicolas, de son côté, ne savait plus que dire. Il chercha une phrase de sortie. « Voilà, j'ai voulu simplement vous avertir. » Et il se dirigea vers la porte. « Attendez !» dit Rastin. Nicolas s'arrêta. « Je ne comprends pas, » dit l'adjudant. « De quoi venez-vous m'avertir? Vous allez faire un rapport à la famille Van Stuhl ?» Nicolas n'y avait pas songé. Mais devant le ton menaçant de l'adjudant, il crut bon de répondre « Je ferai ce que je jugerai bon. »« Ce que je jugerai bon, » dit Rastin en l'imitant. « Et moi, je jugerai bon de vous tirer les oreilles. » « Il faut être deux pour ça, » dit Nicolas en frémissant. L'adjudant se mettait en colère. Voilà qui simplifiait l'aventure. « D'abord, » dit l'adjudant, « vous allez me faire plaisir de vous barrer, et plus vite que ça. » Mais Nicolas ne bougeait pas. « Faut-il, » dit Rastin, « que je vous flanque dehors ?»« Touchez-moi seulement, » dit Nicolas. L'adjudant le poussa de la main. Nicolas riposta par une autre poussée. L'adjudant s'apprêta à boxer. Nicolas, avec une précision parfaite, lui envoya son poing sur la mâchoire. Il fut aussi heureux que le jour de ses débuts, dans le restaurant de Montmartre, où il avait mis à terre un jeune clubman impoli. L'adjudant s'écroula du premier coup. Nicolas n'avait, en somme, qu'à le laisser reprendre connaissance tout seul et à s'en aller. Il s'en alla et traversa la cour, sans trop de précipitation, mais sans ralentir cependant le pas. Il ne pensait plus à Mademoiselle Van Stuhl. Il avait donné un beau coup de poing. Et ce n'était pas le hasard, puisque c'était son deuxième punch victorieux. Décidément, il était né boxeur. Pourquoi s'était-il découragé? Et pourquoi s'était-il détourné, pendant quelques semaines perdues, de sa véritable vocation? Départ pour la gloire? Par un phénomène assez étrange, Nicolas Bergère, qui considérait comme un devoir impérieux d'éclairer la religion de Mademoiselle Van Stoul au sujet de Rastin, l'oublieux Nicolas se sentit dégagé de toute obligation morale de ce genre, aussitôt qu'il eut endormi d'un coup de poing à la mâchoire le peu scrupuleux adjudant. Ce geste brutal, dont l'effet avait été si admirable, avait transformé momentanément le délicat Bergère en un garçon tout d'une pièce, qui faisait place nette autour de lui en distribuant des coups de poing énergiques et ne s'inquiétait plus des conséquences. L'adjudant Rastin, une fois réveillé, brossé et lavé, se rendrait-il chez Mademoiselle Van Stoul? Éviterait-il pendant quelque temps le marchand de ferraille et sa famille, crainte d'être accueilli par les reproches que pourraient entraîner les révélations possibles de Nicolas? Pour le moment, Nicolas Bergère n'avait qu'une idée, se consacrer à la boxe, envoyer de toute sa force son poing droit ou son poing gauche sur des mâchoires qui en valaient la peine, et goûter le plus possible cette sensation délicieuse de voir son prochain s'écrouler sur le sol, quitte à le relever et à le soigner ensuite, comme une mère soigne son unique enfant. Nicolas, le professeur, très simplement et sans qu'on lui eût rien demandé, avait pris quelques louis dans un tiroir où il mettait ses économies et les avait remis à son cousin en lui disant « Déménage. Si tu dois quelque chose à ton logeur, paie-le et loue-toi une chambre dans le quartier. » Il n'y avait plus de chambre disponible dans la maison où demeurait le professeur, mais on en trouva une dans la maison tout à côté, au même étage. Les deux cousins habitaient donc à 2 ou 3 mètres de distance. Il leur suffisait pour venir se voir de descendre 6 étages et d'en remonter 6 autres. Il ne restait plus à Nicolas qu'à se perfectionner dans le noble art. Mais à l'aide de quel conseil? Il n'avait plus beaucoup d'illusions sur le Fighting Club. Il n'y apprendrait qu'à nettoyer au blanc d'Espagne les bottines de boxe. Et s'il y rencontrait le petit Anglais qu'il avait descendu une fois sans explication, il pensait bien que ce même petit Anglais le descendrait encore une seconde fois, sans qu'il en tirât le moindre profit. Il n'osa pas tout de suite parler de ses projets à son cousin Nicolas, car il lui semblait que le professeur ne les écouterait pas d'une oreille favorable. Heureusement, il eut affaire à un homme sans parti pris, qui ne l'encouragea pas avec enthousiasme, mais qui ne le découragea pas non plus, et lui donna même un tuyau utile. « Je te ferai faire connaissance à un petit restaurant où je vais quelquefois, d'un garçon qui pourra peut-être te rendre service. » C'est le président d'un cercle d'étudiants qui s'occupe, je crois, de boxe. Monsieur Delmontez, le monsieur en question, était un principal clerc d'avoué, un petit homme chétif et voûté, passionné de sport. Il avait rêvé maintes fois d'être un champion du monde, en cyclisme, en course à pied, en lutte et en boxe. Mais comme il s'était rendu compte qu'il n'avait aucune chance de remporter des succès personnels, il s'était épris de la gloire de certains athlètes magnifiques qu'il suivait aussi ardemment dans leur carrière que si leurs victoires eussent été les siennes. Il se fit raconter par Nicolas Bergère ses 2 performances du restaurant et de la caserne du château d'eau, et tressaillit à l'idée que peut-être il avait devant lui un futur champion. Sans retard, il fallait s'occuper de Bergère. Pour cela, il importait de le présenter au plus tôt à un monsieur de Versailles, qui avait l'air d'un Anglais, mais n'était pas Anglais, du tout, et s'appelait monsieur Baudrelin. Ce monsieur de Versailles était lié avec d'autres messieurs de Paris et de Maison Lafitte. À 7 ou 8, ils avaient fondé une petite société, tout à fait à la hauteur comme ressource pécuniaire. Ils cherchaient continuellement des champions. Ils étaient venus en demander partout, dans les clubs d'amateurs et notamment dans le cercle d'étudiants que présidait M. Delmontez. Ils vous feront faire des matchs avec de bons professionnels américains. Vous vous battrez devant une douzaine de spectateurs, pas plus, et personne n'en saura rien, car les gens qui sont là auront juré de se taire. Vous toucherez une bonne somme si vous gagnez, et une gentille indemnité si vous prenez la pipe. Quand les membres du club sauront à peu près ce que vous valez, ils vous matcheront en public contre quelqu'un de moins fort, mais de plus connu que vous. Alors ils paieront sec sur votre chance et à une cote avantageuse. « Ah bon ?» dit Nicolas. J'étais un peu étonné de les voir faire cela pour l'amour de l'art. « Eh, ce qu'il y a de plus drôle, » acheva M. Delmontez, « c'est qu'ils le font vraiment pour l'amour de l'art. Mais ils ne veulent pas se l'avouer. Les gens sont comme ça, voyez-vous. Ils ne voudraient pas avoir l'air de dépenser une dizaine de mille francs pour une chose qui les amuse. Il faut qu'ils se persuadent, à eux-mêmes, qu'ils ont un moyen de retrouver largement leur argent. Les petites histoires de ce genre font croire le monde beaucoup plus intéressé qu'il ne l'est vraiment. » Nicolas prit jour avec ce philosophe pour aller voir le monsieur de Versailles. Il était transporté d'aise. Il aurait une profession agréable et lucrative. C'est à ce moment que des remords le saisirent d'avoir négligé la famille Van Stoel. Il ne s'agissait là que d'un devoir de politesse, et Nicolas ne demandait qu'à dénouer aimablement ses relations avec ces personnes. Plus d'aventure sentimentale, puisqu'il se lançait corps et âme dans le sport. Mais la boutique était fermée. Nicolas, après avoir tourné dans le passage, se décida à se rendre au domicile particulier de son ancien patron. On lui apprit que le père, la fille et la tante étaient partis la veille au soir en Hollande. On ne savait quand ils rentreraient. Et Nicolas, qui avait presque renoncé à Mademoiselle Van Stoel, fut tout affolé à l'idée qu'elle lui échappait pour jamais. Non, 100 fois non. Il fallait se dépêcher de se munir de gloire et de la chercher à travers le monde pour lui offrir une fortune et un cœur. Coming Man. Nicolas Bergère fut installé, par les soins et aux frais de M. Baudrelin, le sportsman de Versailles, dans un hôtel de la rue Saint-Ferdinand, à 2 pas de la Porte Maillot. M. Baudrelin était un garçon de 35 ans, d'une belle taille, à la moustache soigneusement rasée, et qui cherchait toutes les occasions de parler du boxeur Peter Brown, afin de montrer, sans en avoir l'air, la façon dont il prononçait « Pete Brown ». Au sujet de la situation de fortune de M. Baudrelin, Nicolas recueillit peu à peu les renseignements les plus divers. On lui avait d'abord dit qu'il était riche à millions. Plus tard, un petit sportsman à binocle de 17 ans, impitoyablement renseigné, lui affirma que M. Baudrelin n'avait à lui que sa propriété de Versailles, qui valait 600 000 francs, et était hypothéqué pour la moitié de cette somme. Plus tard encore, il entendit raconter que M. Baudrelin n'avait absolument rien, même pas sa maison de Versailles, et qu'il recevait une pension d'un vieillard lointain et mystérieux, probablement son grand-père naturel. Nicolas Bergère n'était pas encore habitué à tous ces estimateurs officieux de la fortune d'autrui. Il les écoutait avec une grande complaisance, en essayant de concilier des détails bien contradictoires. Quoi qu'il en fût, millionnaire ou sans fortune, M. Baudrelin subvenait largement à l'existence de Nicolas, depuis que le jeune homme, amené dans une remise de Neuilly, avait été essayé par un boxeur américain, Kid Arthur, une célébrité de Boston, qui avait gardé de sa première jeunesse cette gracieuse appellation de « Kid », bien qu'elle s'accordât mal avec sa haute taille et ses cheveux grisonnants. Kid Arthur eut tout de suite une excellente opinion de Nicolas. Il l'avait pesé soigneusement. Nicolas pesait 75 kilos, mais ce n'était pas son vrai poids. Il pouvait descendre d'une dizaine de livres et se maintenir aisément dans la catégorie des poids moyens. Présenté aux 7 autres sportsmen affiliés secrètement au club anonyme de M. Baudrelin, Nicolas fit une bonne impression. Ces messieurs avaient tous une grande hâte de le voir combattre. Mais Kid Arthur ne voulut pas qu'il montât sur le ring avant plusieurs semaines. Il prit une chambre à l'hôtel de la rue Saint-Ferdinand et réveilla son poulain chaque matin à 6 heures pour marcher à bonne allure dans le bois de Boulogne, en faisant par intervalle de petits temps de course avec des poussées d'emballage de 50 ou 60 mètres. Puis ils rentraient tous deux à la remise de Neuilly, où ils trouvaient une installation assez complète, punching ball et tube compris. Nicolas apprit à travailler au ballon, à sauter à la corde, à combattre son ombre, à boxer des sacs de sable, sans oublier les mouvements d'assouplissement sur le sol et les exercices respiratoires, debout ou couché. Il se laissait diriger avec délice, et goûtait un grand repos à ce travail excessif, où sa volonté, soutenue par une volonté plus forte, ne se fatiguait point. Mais ce qui lui plaisait le plus, c'était les assauts avec Kid Arthur. Les premiers jours, il combattit sans ardeur, découragé par la science de son adversaire, et ne tirant aucune vanité des coups qu'il parvenait à lui placer, persuadé que le maître se laissait faire. Puis, au bout d'une semaine, il s'aperçut à un certain essoufflement de Kid Arthur, à certaines rages de l'ancien champion, qu'il ne se laissait plus faire aussi complaisamment qu'au début. Cependant, Nicolas était un garçon défiant. La petite tournée qu'il avait reçue jadis au Fighting Club, le jour où il avait été opposé à ce petit boxeur anglais, cette rapide leçon de modestie avait laissé en lui une trace ineffaçable. Quand il vit que Kid Arthur prenait et qu'il se rendit compte que lui-même supportait très bien les coups de Kid Arthur, il se dit que le champion était loin de son ancienne forme et que n'importe qui aurait pu disposer de cette gloire déchue. Aussi ne fut-il pas rassuré du tout quand M. Baudrelin, un matin, après avoir assisté à leur travail de la remise, annonça qu'il avait reçu une lettre de Londres et qu'on lui annonçait l'envoi prochain d'un poids moyen de l'armée anglaise qui devait venir se mesurer en champ clos avec Nicolas. Le lendemain, à 4 heures, Kid Arthur et Nicolas attendaient sur le quai de la gare Saint-Lazare l'express de Dieppe qui devait amener Corporal Duncan. On ne leur avait donné aucun signalement précis du voyageur, mais ils le reconnurent tout de suite à son air étonnamment dépaysé. Certes, il arrivait par ce train de Dieppe d'autres Anglais pour qui la capitale française était une grande inconnue, mais aucun ne paraissait aussi égaré que ce corporal Duncan, aux yeux craintifs, à la tête divagante, à la bouche largement ouverte, et qui ressemblait à un poisson pressé de s'accrocher au premier appât venu. Il était coiffé d'une casquette, vêtu d'un grand paletot vert, et portait une espèce de sac de voyage poilu, de forme inexplicable. Corporal Duncan fut emmené tout de suite à l'hôtel. Il demanda un ginger ale, car il faisait partie d'une société de tempérance. Kid Arthur lui adressait de temps en temps la parole. Puis, avec le peu de mots français qu'il possédait, il déclarait à Nicolas que la conversation du corporal n'offrait qu'un intérêt limité. Le lendemain, à 10 heures, ils partirent tous pour Versailles, où était installé le ring d'essai, dans la cour de l'entraîneur Matt Baldwin, qui faisait partie de la petite société secrète. Vers 3 heures de l'après-midi, Nicolas Bergère et Corporal Duncan firent leur entrée sur le ring. Il n'y avait dans l'assistance que les 8 membres de la société et une quinzaine de lads de Baldwin. Ce n'étaient pas des gens bavards, et d'ailleurs le nom de Nicolas Bergère ne leur avait pas été révélé. Kid Arthur et un lad soignaient Nicolas. 2 autres lads servaient de second au corporal, Monsieur Baudrelin tenait le chronomètre. On avait décidé que les reprises, au nombre de 6, seraient de 2 minutes. C'était déjà des conditions assez sévères pour un novice. Corporal Duncan n'avait pas un jeu très varié. Il se tenait assez loin de son adversaire, puis rentrait brusquement en frappant du gauche et du droit un peu au hasard. Une fois encore à corps, il attendait patiemment que l'arbitre Baldwin, assis en dehors du ring, prononça le commandement de « Buick ». Nicolas, au cours de cette reprise, reçut 3 ou 4 coups qui ne lui firent pas de mal. À la seconde reprise, il plaça un beau direct du gauche qui fit chanceler Corporal Duncan. Il se sentit en grande confiance, car son droit était beaucoup plus fort que son gauche. Mais Kid Arthur lui avait recommandé de ne pas se servir de son droit. Les reprises suivantes furent assez monotones. Des charges de Duncan, 2 ou 3 arrêts de Bergère. On arriva à la fin du combat sans incident grave. Nicolas était déçu. Kid Arthur se déclarait enchanté. Les assistants finirent par être de l'avis de Kid Arthur et par concevoir une assez haute opinion de Nicolas, qui ne savait pas du tout ce qu'il fallait penser et n'osait demander « Est-ce que je suis vainqueur ?» Petit officier Bradbury, qui vint la semaine suivante, était un petit homme noir, à l'air futé et dangereux. Nicolas l'envoya à terre dès le premier round. Puis ils firent à peu près jeu égal jusqu'à la fin. Private Davidson, à la deuxième reprise, resta plus de 10 secondes à terre. Nicolas en conçut un grand orgueil et fut étonné de ne pas voir sa joie partagée par Kid Arthur. Il n'apprit que plus tard que le simple soldat Davidson, dénué d'ambition, avait été soupçonné de s'être couché. Après l'armée de terre, ce fut la marine anglaise qui envoya ses forces se heurter au frémissant Nicolas. Seaman Lewis, dès la première reprise, envoya le Frenchman sur le sol, où Nicolas resta étourdi jusqu'au moment où il entendit le nombre 5. Il attendit 2 ou 3 secondes et se releva à temps. Il se disait cependant « Je vais y retourner ». Mais il reçut un second coup de poing qui ne lui fit aucun dommage. Il aperçut devant lui Seaman Lewis en expectative. Il vit que le visage du marin, bien découvert, s'offrait comme une proie large et tentante. C'est à ce moment que Nicolas retrouva ce beau direct du droit qu'il avait perdu depuis plusieurs semaines et qui avait envoyé au pays des rêves l'adjudant Rastin. Il en fit hommage à Seaman Lewis, qui tomba tout d'une masse sur le sol, et que l'on dut ramasser, comme à la pelle, pour le porter dans un coin. C'est à partir de ce jour-là que M. Baudrelin et ses associés eurent l'impression que Nicolas serait bien un monsieur, et qu'il pouvait déjà sortir sans sa bonne... gloire encore anonyme. Le soir du jour où il avait descendu Seaman Lewis, Nicolas Bergère eut toutes les peines du monde à s'endormir. Vraiment, quand le marin s'était écroulé à ses pieds, il avait ressenti une émotion délicieuse. Il aurait voulu recommencer le lendemain, se mesurer à des gens beaucoup plus forts, aux champions poids moyens d'Angleterre et même aux champions du monde. Il lui semblait qu'il avait dans son poing droit une force exceptionnelle, unique. Puis il se fatigua de rêver ainsi tout éveillé à des matchs de boxe. Son impatience de combattre l'énervait. Il se mit à penser avec application à d'autres choses, à tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il était à Paris. Il pouvait le dire, maintenant que sa vie s'orientait d'une façon assez précise. Jusqu'à ce moment, il avait un peu ressemblé à un tramway qui ne retrouve pas ses rails. D'abord, il était parti avec beaucoup d'espoir, puis toutes ses déconvenues l'avaient rendu plus défiant. Mais aujourd'hui, le double rail continuait et se prolongeait au loin, très au loin. Kid Arthur devait le quitter le lendemain pour 2 ou 3 jours. Il s'en allait dans le pays de Galles, où se trouvaient pour le moment deux célèbres boxeurs américains. Il faudrait tâcher d'en ramener un pour lui faire faire la connaissance de Nicolas. On s'était aperçu que Nicolas était un garçon sérieux et qu'on pouvait le laisser quelques jours sans surveillance. Il n'en profiterait pas pour faire la fête. Nicolas, cependant, avait médité une escapade. C'était de se rendre au Fighting Club et de tâcher d'y rencontrer Kennedy, le petit boxeur anglais avec qui il s'était trouvé en présence quelques mois auparavant. Il se disait bien que, ce faisant, il trahissait un peu la petite société de sportsmen qui s'occupait de lui secrètement et veillait à sa subsistance. Mais, somme toute, la chose ne serait pas ébruitée. Le Fighting Club était désert, comme à son ordinaire. Le professeur de boxe française ne nettoyait même plus de chaussures. Il était occupé à refaire le tableau des membres du cercle. Il s'était procuré un beau carton vert sur lequel il fixait, au moyen de punaises de cuivre, des petits cartons blancs effilés à chaque bout. Il écrivait sur chacun de ces cartons le nom d'un de ces messieurs. Mais il prenait mal ses mesures, commençait le nom avec une écriture trop grosse et le terminait par de petites lettres serrées, à peine distinctes. Aussi son visage reflétait-il toute la détresse d'un artiste vainement épris de perfection. Le professeur connaissait à peine Kennedy et ne sut dire s'il venait encore à la salle. Nicolas allait s'installer quand il vit arriver un petit garçon de 8 ans, passionné de boxe, parfaitement renseigné, et qui lui indiqua l'Académie Bouzol, où Kennedy s'entraînait pour un match, qu'il devait soutenir prochainement contre un autre champion de poids léger. L'Académie Bouzol était installée dans un ancien garage de l'avenue des Ternes. Nicolas, en ouvrant la porte, eut la joie d'apercevoir un beau ring où deux nègres se livraient à un assaut bizarre avec des sautillements et des gestes de mains implorantes. On eût dit une sorte de pantomime sacrée. « Qu'y a-t-il pour votre service ?» interrogea un petit homme rond, tout fraîchement privé de sa moustache, et qui n'était autre que M. Bouzol lui-même. « Je voudrais faire un peu de boxe avec quelques-uns de ces messieurs. » « Est-ce que vous connaissez la boxe ?»«
Un peu, » dit Nicolas.
Et il demanda, « N'avez-vous pas ici un boxeur anglais du nom de Kennedy ?»«
Il est en train de se mettre en tenue, » dit M. Bouzol.
« J'ai déjà boxé avec lui une fois, » dit Nicolas. À ce moment, il aperçut Kennedy en jersey marron, et le cœur lui battit d'une façon étrange. Il aurait voulu tout de suite, sans changer de costume, monter sur le ring avec ce Kennedy.
« Est-ce que vous savez l'anglais ?» demanda M. Bouzol. « Parce que moi, pour causer les langues étrangères, je ne suis pas très à la hauteur. »
« J'en sais quelques mots, » dit Nicolas. Heureusement, un des nègres parlait un peu le français. Il entendit très bien ce que lui disait en français M. Bouzol. Mais de quel anglais bizarre se servait-il ensuite avec tant de volubilité ? Kennedy semblait perdu en l'écoutant. La chose finit tout de même par s'arranger au moyen de gestes expressifs. On conduisit Nicolas au vestiaire. Il n'eut qu'à retirer ses vêtements. Il avait mis en dessous sa petite culotte noire et il était venu avec des souliers sans talons. On lui mit aux mains des gants de 6 ou 8 onces, on leur fit place sur le ring et une petite bataille commença, sous les yeux intéressés des deux nègres et le regard un peu narquois de M. Bouzol. On s'aperçut très vite que le nouveau venu savait y faire. Kennedy était rentré assez rapidement et Nicolas fut touché plusieurs fois au visage. Mais il commençait à savoir ce que c'était que des coups de poing, et des gants de boxe, arrivant à toute volée à sa rencontre, ne lui faisaient plus peur. Un bon coup du gauche à l'estomac envoya dinguer Kennedy à l'autre coin du ring. Kennedy, projeté dans les cordes, se releva un peu essoufflé. Mais il ne revenait plus du côté de Nicolas. Il semblait réfléchir. « Kennedy est un peu léger pour vous, » déclara M. Bouzol. Il faudrait vous mettre en présence de Joey King. Il va venir ici tout à l'heure. »
Joey King ?
Nicolas avait entendu parler de ce poids moyen anglais qui venait de gagner 2 matchs sensationnels au Wonderland d'abord, puis à la salle Wagram. Joey King n'était pas haut de corsage, comme le poète Malherbe disait d'Achille au pied coffre extraordinaire, une mâchoire très résistante et un droit effrayant. Quand il le vit en face de lui sur le ring, Nicolin se souvint à propos des leçons de Kid Arthur. Il laissa son droit à lui à la maison et n'employa que son gauche, avec lequel il martela consciencieusement le visage de Monsieur King. Au bout de 2 minutes de cet exercice, il n'avait pas renversé son adversaire, mais il l'avait écœuré considérablement. Si bien que Joey King, qui n'aimait pas se faire abîmer la figure à titre gracieux, déclara que sa main, un peu cassée, le faisait souffrir. C'était tout de même une victoire morale pour Nicolas. Il regarda la galerie, qui s'était fortement augmentée. Mais son plaisir fut un peu gâté quand il aperçut son patron, M. Baudrelin. Il alla carrément à lui, et il eut la bonne inspiration de lui dire à mi-voix qu'il n'avait révélé à personne son nom de Nicolas Bergère.
« ça va bien !» dit M. Baudrelin, très content du succès de son poulain. « Mais ne restez pas ici, et venez dîner avec moi. »
Nicolas se rhabilla, et sous les yeux respectueux des gens de la salle, s'en alla dans une auréole. Autres exercices. Kid Arthur était revenu du pays de Galles. Il y avait rencontré les 2 poids moyens américains qui faisaient une tournée en Europe, Dave Morris et Sailor Jones. Mais Dave Morris avait un match en perspective à Mountain Ash, et le marin Jones demandait une somme énorme pour mettre les gants de 4 onces, même devant une assistance restreinte et pour un match quasi secret. D'ailleurs, Kid Arthur ne tenait pas à amener de tels hommes en présence de son poulain. Il pensait que Nicolas n'avait pas encore acquis la vitesse nécessaire et qu'il n'encaissait pas encore assez bien. Certes, il était assez là pour recevoir, sans danger, un beau coup à la mâchoire. Mais Jones ou Morris étaient capables de lui en envoyer une telle provision que, dans le lot, il s'en trouverait certainement d'un peu trop dur. Et le poulain n'aurait certes pas le loisir de placer son droit magistral. Il était certainement beaucoup plus fort que Jones et que Morris. Cela, Kid Arthur l'affirmait catégoriquement. Ce qu'il faudrait, un peu plus tard, ce serait de faire venir un de ces hommes, non pour un combat, mais pour de nombreuses séances d'entraînement, afin d'habituer Nicolas à se mettre au train de ces cyclones d'outre-océan. En attendant, Kid Arthur soumettait son élève à un entraînement spécial. Il le faisait taper à poings nus sur de lourds sacs de sable suspendus au plafond. C'était pour lui faire un peu les mains. Si par hasard Nicolas avait une affaire en dehors du ring, ce que les Anglais appellent un cas de rue, il fallait qu'il pût s'en tirer à son honneur, sans être arrêté par un de ces stupides accidents de mains cassées ou de poignets foulés qui arrivent parfois à des boxeurs trop habitués aux gants de boxe. Kid Arthur était un homme plein d'expérience. Il avait, dans son temps, suivi un entraînement très méticuleux et savait qu'il faut éviter, comme le péril le plus funeste, les excès de boisson. Il avait victorieusement résisté, pendant toutes ses années de gloire, aux tentations du whisky. Il lui en était resté une soif intense et inapaisable. Il ne pouvait donc s'empêcher d'aller au bar, où il emmenait parfois son poulain. Mais Nicolas ne consommait point. Il restait docilement assis à une des tables, tandis que Kid Arthur, juché sur une des grandes chaises du bar, un chalumeau entre les lèvres, semblait pomper avec patience, par ce petit canal de paille, tout le liquide de l'établissement. Nicolas, qui parfois avait soif,
ne pouvait espérer un certain relâchement dans la surveillance qu'exerçait sur lui le toujours vigilant Kid Arthur. Plus l'Américain était mûr, plus il était sévère pour son malheureux élève. À vrai dire, Kid Arthur sentait confusément qu'il avait tort de conduire Nicolas à la taverne, même en l'empêchant de boire, car il était inutile de lui donner soif. Aussi l'entraîneur éprouva-t-il le besoin de justifier ses séances de bar. Il décida qu'il était bon de distraire son poulain par un petit divertissement paisible après les exercices violents de la matinée. Il lui trouva donc trois partenaires pour le bridge. Nicolas s'initia au bridge sous la direction d'un pharmacien, d'un inspecteur d'assurance et d'un jeune Américain employé dans une maison de cravate. Le pharmacien et l'assureur fréquentaient ce bar par anglomanie. Ils disaient à l'occasion « Very well » ou « That's all right ». Mais ils se distinguaient l'un et l'autre par une inaptitude admirable à parler anglais. L'assureur se présentait sous les espèces d'un quinquagénaire très frais. Son teint rosé décelait une bonne humeur naturelle et peut-être un léger diabète inoffensif. Il portait toujours un faux col très blanc et une jolie fleur à la boutonnière. Les cheveux grisonnants, qui venaient bouffer en un toupet léger sur le haut de son front, arrivaient en réalité d'assez loin, du derrière de la tête sans doute, ou de bas côté généreux. Le pharmacien se distinguait par une figure satanique, des sourcils relevés vers les tempes, des joues creuses, une barbe touffue à certains endroits et dévastée à d'autres. Sa tête était entourée d'une brume de cheveux roux. Quand son partenaire faisait une faute, oubliait une indication, jouait cœur par exemple au lieu du trèfle désiré, le démoniaque pharmacien, renversé sur sa chaise, semblait déchiré par tous les tourments de l'enfer. Nicolas trouva dans le bridge un soulagement à l'impatience continuelle dont il était agité depuis qu'il s'était promis au combat du ring. Il était joueur. Il éprouvait régulièrement une petite émotion chaque fois qu'il recevait les 13 cartes mystérieuses que lui envoyaient le donneur et le destin. Ce n'était pas le brusque assommoir d'un coup de baccarat. Une fois les cartes rangées, l'habileté du joueur intervenait. Il s'agissait de tirer d'un bon jeu le meilleur parti, ou de se défendre héroïquement, d'éviter le désastre complet avec un jeu lamentable. Et à prendre conscience des progrès du joueur, la vanité de Nicolas se satisfaisait, un peu inquiète cependant de ne pas recevoir des approbations plus constantes de ces deux juges redoutables, le pharmacien et l'assureur. Vers le mois d'avril, Kid Arthur dut se séparer de son poulain pendant quelque temps. Un petit séjour de santé et de repos dans une maison de nuit. Il s'y rendait tous les 5 ou 6 mois pour y subir un traitement d'hydrothérapie et de privation de whisky. Nicolas Bergère quitta le quartier de la Grande Armée et revint habiter près de son cousin. Il recevait de M. Baudrelin, le sportsman de Versailles, une mensualité assez large. Il avait été décidé que jusqu'au retour de Kid Arthur, Nicolas ne subirait qu'un entraînement léger pour reprendre au mois de mai une préparation sérieuse, car on avait des projets de match sensationnels pour la veille du Grand Prix. Il faisait donc tous les matins une promenade de 2 heures, un peu de gymnastique suédoise et de punchik ball pour se maintenir en condition. Une partie de l'après-midi était consacrée à de bonnes séances de bridge avec des messieurs du quartier, professeurs à Louis-le-Grand et à Saint-Louis. Nicolas devait ses nouvelles connaissances à son cousin. Et il oubliait dans ce milieu nouveau qu'il était un boxeur en disponibilité. Un jour, une circonstance imprévue le lui rappela.